Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, comme j'ai le micro qui est accroché, j'ai quand même fait quelques annonces techniques, ce qui normalement n'était pas prévu, mais bon, il faut quand même le faire. Donc, je vais d'abord vous demander quelque chose, c'est d'essayer de compléter les tables pour être à 4 par table. Si c'est possible, ça sera d'autant plus riche pour vous dans tout le programme de la suite.
Ouais.
Donc, vous pouvez essayer de vous mettre par 4 à table.
Voilà. Il y a sûrement d'autres personnes qui vont arriver, mais...
Donc, mettez-vous... Voilà. Et peut-être ceux qui sont tout dans le fond, là, qui sont serrés comme des sardines,
viennent
ici, il y a des tables libres devant. Et ça permettra de laisser des retardataires
de ne
pas vous déranger pendant qu'on est en train d'avancer dans le programme.
Oui, très bien.
Donc, si ça ne vous gêne pas...
Il y a des places devant.
Voilà, vous mettez quelques... Là, il y a encore 3 tables là, qui sont libres et qui n'attendent que vous.
C'est une chanson, ça.
Oui.
Hein, c'est vrai, hein. Les bons vieux scouts, on sait encore.
On peut commencer.
Alors, merci à vous d'être là. 2-3 petits éléments, c'est d'éteindre les GSM. Parce que comme vous voyez, qu'on est dans un atrium et donc tout résonne. Donc le mieux, c'est d'essayer d'éteindre les GSM. Alors, merci à vous tous d'être à l'heure et d'avoir consacré ces soirées avec nous. Ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite la parole à Laurent. Et pendant que je vous passe la parole, vous avez juste déjà un petit travail à faire. C'est que sur chacune de vos tables, il y a des petites étiquettes blanches. Et donc, c'est de mettre son prénom. Comme ça, eh bien, on va pouvoir savoir qui parle et puis on va pouvoir discuter, partager ensemble. Donc, si ça ne vous dérange pas, vous mettez votre prénom et vous le collez sur votre table.
Voilà. Bonsoir à tous. On va commencer tout de suite par remercier en fait tous les partenaires qui nous ont aidés à réaliser cette soirée et le cycle de séminaires qui va suivre. Alors, on a de très nombreux partenaires et on les remercie vraiment chaleureusement. Il y a bien sûr la Ligue des Optimistes dans laquelle la plupart des séminaires auront lieu tout au long de l'année. Il y a également l'Institut de Neuromanagement dans lequel nous aurons également certains séminaires. Il y a Tetra et Terre et Conscience qui est aussi un de nos partenaires pour l'organisation de certaines conférences ou séminaires. Il y a bien sûr la CIB dans les locaux de laquelle vous vous trouvez et qui nous a vraiment chaleureusement accueillis ce soir. Il y a Creative Wallonia qui est une ASBL qui vient d'être lancée par Pierre Portevin pour stimuler l'intelligence collective au niveau de la Wallonie. Et c'est une initiative du ministre Marcourt également. Le ministre Marcourt devait être présent ce soir. Malheureusement, il a été appelé par Elio Di Rupo. Et donc, il ne pourra pas être là avec nous ce soir. Il s'en excuse. Il y a bien sûr alors BNP Paribas qui nous a fourni tout le matériel, je vais dire, sono, audio pour ce soir. Il y a Solvay, HEC et la LSM, la Louvain School of Management, avec lequel nous avons un partenariat pour l'Executive Master de Philosophie et Management. Il y a la librairie Filigrane, avec laquelle nous avons un partenariat aussi pour les livres qu'ils ont mis en dépôt, les livres des orateurs que vous pourrez acheter si vous le voulez à la sortie de cette soirée, mais aussi à la sortie des différents séminaires. Il y a Euractiv, dont la TV Euractiv, qui est le portail d'information européen, nous soutient également et donc va faire réaliser une petite vidéo de cette soirée. Il y a EC4CI, donc cette ASBL dont je parlais, qui travaille donc pour Creative Wallonia. C'est une initiative de Pierre Portevin. Donc il y a les FNDP, donc les facultés Notre-Dame de la Paix de Namur, qui nous aident également, et Tenségrité, la société de Roland, qui nous aide également pour mettre en place tout ceci. Voilà, tous ces partenaires nous aident et c'est vraiment pas une mince affaire de mettre tout ceci sur pied. Donc, grand merci à eux. Et puis, je voudrais remercier aussi toute l'équipe des gens qui nous ont aidés à réaliser ceci. Alors, c'est bien sûr Hélène Bertrand qui a géré vraiment tout le projet en lui-même de cette soirée et par après toute la logistique de l'organisation des cycles. Il y a Pierre Boirand qui est ici, qui va faciliter en fait toute cette soirée en termes d'intelligence collective. Vous allez tout de suite voir ce dont on parle. Il y a Martine Van Remortel qui va s'occuper du graphic design ou du visual arts de cette soirée. Donc elle va essayer de capturer en image ce que nous allons penser ensemble. Il y a, je l'ai déjà mentionné, Pierre, mais c'est vraiment un des grands architectes de cette soirée qui nous a vraiment aidés au niveau du concept, de l'organisation du cycle et de cette soirée en particulier. Il y a Evelyne Daoud qui nous a aidés à réaliser toutes les illustrations graphiques de la brochure et la mise en page de la brochure. Il y a François Bellens pour tout ce qui est le development web de notre site et Alexis Van Zeveren pour tout le système d'enregistrement des inscriptions. Voilà, ça c'est pour l'équipe. Et puis enfin, nous avons nos trois orateurs de cette soirée, Gauthier Chapelle, Grégoire Vallenborn et Maximilien Brabec. Alors, Gauthier, si tu pouvais te lever, voilà. Gauthier Chapelle est agronome, biologiste et le fondateur de Biomimicry Europe. Il est également le directeur scientifique de Green Loop, qui est la première société de consultance européenne en biomimétisme. Alors, Gauthier, si tu pouvais dire un mot du pourquoi tu t'es joint à cette aventure et ce à quoi tu nous invites ce soir. Merci. Alors, nous avons Grégoire Vallenborn. Grégoire, oui, tu es là. Grégoire, donc, est philosophe et physicien. Il est chercheur interdisciplinaire au Centre d'études du développement durable de l'ULB et il est professeur à Sciences Po Lille. Grégoire.
Oui, alors, je suis ici parce que je travaille sur les modes de consommation générale. Je pense que c'est évident aujourd'hui qu'on va devoir changer rapidement le mode de consommation. Je suis très intéressé de voir en quoi la nature peut nous inspirer, nous engager dans d'autres valeurs, dans d'autres attachements à ce qui nous entoure. Je suis curieux de savoir ce que nous allons pouvoir aujourd'hui, ce soir, ensemble dans ce sujet.
Alors, nous avons également, qui nous vient de Paris, Maximilien Brabec. Maximilien, où es-tu? Qu'on te voit, voilà, il est là. Maximilien est consultant en stratégie out of the box et en business model innovation. Il est l'auteur de Sortir du Me Too, et il est également l'auteur d'un livre plus récent qui est le Business Model Vert. Et il va également nous entretenir de tout cela après le World Café, dont on va vous expliquer tout de suite ce dont il s'agit. Maximilien.
Oui, je suis intervenu aujourd'hui parce que le sujet, c'est les gouvernements de la nature de management. Et clairement, la nature de la nature a des défis dans tous les responsables. Et ces défis vont mettre en péril, en tout cas, exposer énormément la qualité des entreprises et leur business model. Et on sent bien aussi que ces défis vont faire changer de manière. Donc ce sujet me plaît énormément. De montrer comment les entreprises vont aller vers la nature, vers une stratégie qui soit en alliance avec la nature, tout en étant dans l'alliance écologique et économique.
Merci Maximilien. Puis enfin, nous avons Pierre Boirand. Pierre Boirand est consultant en transformation des organisations. Il intervient dans de très nombreuses entreprises depuis déjà plus de 12 ans. Il est architecte de rencontres en intelligence collective. Et il est membre également de l'ASBL EC4CI, c'est-à-dire le European Center for Collective Intelligence, qu'a lancé Pierre Portevin. Pierre ?
Moi, j'ai une grande chance de pouvoir se réunir avec des personnes qui sont
Merci. Merci Pierre. Alors je passe la parole à Roland pour nous expliquer un peu le déroulé de la soirée.
Et peut-être avant de vous expliquer le déroulé de la soirée, peut-être un mot, parce qu'on a promis de parler pas plus de 3 minutes, on a déjà largement dépassé, mais un mot pour vous dire que l'année dernière, on s'est penché sur une question qui était la question de la responsabilité. Et on a fait tout un cycle pendant un an sur la responsabilité. Cette année, Laurent et moi, on s'est posé la question de se dire, cette responsabilité, on a parlé des corporations sociales de responsabilité, on a parlé de la responsabilité des entreprises, on s'est dit, en fait, quand on regarde les journaux, on parle d'environnement, on parle de nature, on parle de drame de la planète, et on s'est dit, mais est-ce que, en fait, si on avait un autre regard sur cette nature, plutôt que de la regarder un peu de l'extérieur, si on s'y intéressait plus en rentrant un peu à l'intérieur de cette nature, en essayant de regarder comment elle agit, comment elle fait, comment elle avance. Et donc, ça sera en fait l'objet du cycle de cette année, l'intelligence de la nature. Peut-elle, oui ou non, révolutionner notre management? Et donc, c'est un peu la première expérience, mais c'est la séance d'ouverture, c'est la séance d'aujourd'hui. Alors, je peux vous dire qu'il y a moins d'une heure, j'étais stressé, comme j'ai rarement été stressé. Je crois que je me suis discuté avec Laurence, ça n'arrive quand même pas très souvent. Parce que, si vous voyez, il n'y a pas de podium pour les présentateurs, il n'y a pas de grande salle avec 5 personnes qui vont vous faire un grand speech, mais on s'est dit, la nature, c'est le partage, la nature, c'est la collaboration, la nature, c'est la vivre, c'est être dedans et pas de le regarder de l'extérieur, et donc on s'est dit, il y a des techniques pour ça aujourd'hui, qui peuvent être appliquées dans les entreprises. Ça peut être le moment de garder, de l'oublier en 5 minutes, mais c'est de vous faire vivre cette vie, de vous permettre, pendant un tout petit moment, une petite soirée, vous permettre de vivre cet élément d'échange, cet élément de vraiment de pouvoir connaître un tout petit peu, comme un acoustique, de pouvoir toucher à ce que ça peut être un échange de collaboration, un échange de vie, un échange de partage sur un thème qui vous est cher, parce que sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui, qui est le thème de la nature. Alors le programme, pour que tout le monde soit relax et ne commence pas à dire, tiens, il faut que j'aille pisser, on va dire que on va commencer maintenant, et jusqu'à 21h, si je ne m'abuse,
un peu moins
de 21h, 20h55, on va avoir des exposés et une introduction pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Puis après, on va avoir un bon café. Puis on va avoir un bon café. Le café, c'est partager avec vous. C'est que vous allez être les intervenants. Vous allez être les gens qui en savent beaucoup plus sur la nature que sans doute beaucoup d'entre nous, et en tout cas que Laurent et moi. Et donc, on vous a mis quelques spécialistes placés là, mais en plus, c'est vous qui allez sortir l'essentiel de cette soirée. Et donc, vous allez faire ça jusqu'à 21h. Il y a 21h, et on va vous donner à manger. Et donc, il y a un buffet d'une demi-heure. Et puis après le buffet, eh bien, il y a de nouveau un spécialiste qui viendra vous parler. Et qui vous dira également ce qu'il pense de la nature, et évidemment aussi faire un peu le compte-rendu de tout ce qu'on aura récolté pendant cette heure précédente, et vous permettre de pouvoir le faire partager non plus à une table de 4, mais à une table beaucoup plus grande, puisqu'on est à peu près 140 dans cette salle. Je dois dire que merci à la technique, parce que quand je suis arrivé ici, je suis devenu encore 2 fois plus blanc, parce que si vous aviez déjà essayé de faire un congrès de ce type-là dans un atrium, et d'avoir cette qualité de son, je ne sais pas comment ils y sont arrivés, mais ils ont dû faire une prouesse technique pour arriver à avoir ce son dans cet atrium. Donc, voilà. Je vais passer immédiatement la parole.
Peut-être encore une petite chose.
Ah non, encore une chose, oui. Une petite chose très importante, c'est que sur vos tables, vous avez un objet. Cet objet, Gauthier, il tient comme la prunelle de ses yeux. Ce sont tous des exemples de l'intelligence de la nature. Chaque chose que vous avez sur votre table, il va vous en parler, il va vous l'exprimer, vous allez pouvoir le toucher avec délicatesse et surtout lui rendre à la fin. Donc voilà, ça c'était un élément. Maintenant, Gauthier, à toi l'estrade et Merci en tout cas d'être là aussi avec nous aujourd'hui.
Voilà, ça c'était un petit peu pour lancer cette
Seigneur Président, merci cet accès. Maintenant, c'est moi qui vous introduis au milieu du ministre de l'Église et au milieu du ministre dans une définition un petit peu plus stricte, telle qu'elle a été proposée par Mme Lundel il y a une vingtaine d'années, et qui a proposé une définition plus recevée du biomimétisme, comme étant s'inscrire vivant, mais s'inscrire vivant dans un cadre de l'humanité. Basé sur une idée très simple, c'est que le vivant existe à l'humanité, et par définition, toutes les espèces qui sont encore là, si elles sont encore là, c'est l'espèce humaine. Et il y a eu le fait de nous à peu près 3,8 milliards d'années, et pas tout, bien sûr, mais en tout cas, elle a créé notamment ce plan de 3,8 milliards d'années. Donc, a priori, nous sommes le fait de l'évolution, nous devrions pouvoir nous aussi arriver à être humains sur Terre, d'autant qu'on a tellement. Justement, dans cette des professeurs qui ont plein de notoriété à nous donner. Et c'est justement ce que nous propose après le biomimétisme. Alors, je vais vous donner d'abord deux, trois exemples qui sont du biomimétisme technologique, ou du biomimétisme pour développer des matériaux et des formes. Mais après, on va arriver au sujet de ce soir, qui est aussi de voir comment ça peut nous inspirer pour nos organisations, et donc, du coup, aussi de la nature. Ça, c'est un premier très bel exemple. C'est l'exemple de Martin Pêcheur, qui est le plus récent de l'autorité de Martin Pêcheur. Le Martin Pêcheur, qui est une forme très adaptée à son mode de cuisson, vous savez bien qu'il pêche pour enlever les poissons. Et donc, quand il pêche, il se laisse couler, et il passe de la terre à l'air, à l'eau, et à l'eau, beaucoup plus bien. Et cette tranquillité, cette forme particulière, a inspiré un ingénieur japonais. Je travaillais sur le GPSN, le train grand vitesse, le train en particulier, traversait énormément de tunnels. Donc à chaque tunnel, arrivait le même phénomène, elle se coupait brutalement devant le train. Et il y avait des problèmes de vibration de l'eau, de consommation de bruit, etc. Et simplement en pensant la difficulté du biomimétisme en se disant, mais qui en a tout le même problème, comment l'a-t-il résolu? C'est vrai que c'est comme cet ingénieur et de l'orthologue, regardez les oiseaux. Il a pensé aux oiseaux de l'eau, mais en adaptant la forme du bec du Martin Pêcheur, mais croyant en adaptant dans ses principes, ça n'est pas une limitation simple, le prendre et ensuite le transcrire, il a amélioré le performance du train de 1,7%, et donc si on monte en avant à la centrale de charbon pour produire l'électricité au départ, il a donc fait baisser les émissions de CO2 de ce train à grande vitesse uniquement en s'inscrivant la forme d'un oiseau. Alors, un deuxième exemple, peut-être encore plus spectaculaire, c'est au niveau des matériaux, sachant que nous sommes actuellement dans la génération de l'énergie. Nous avons trouvé une ressource à la fois d'énergie et de matières premières à pouvoir. On travaille à haute température, haute pression, souvent avec des solvants aussi. Et bien voilà un autre exemple qui nous vient du bilan. À droite, vous avez un fibre de verre, et à gauche, vous avez en dessous, vous avez des fibres de verre qui sont en bois, des exemples de fibres de verre qui sont en bois. Ici, c'est une éponge. Au fond, dans les atmosphères, c'est-à-dire à 2-3 mm de profondeur, là où la température est en permanence à 4 degrés. Donc, nous faisons nos fibres de verre à plusieurs centaines de degrés, et elles sont les mêmes avec la même unité optique et avec des lettres mécaniques supérieures, mais à 4 degrés. Ça, ça a intéressé finalement, quand on a réussi à faire proposer des ingénieurs, des ingénieurs et des biologistes à reproduire ce procédé, non pas à exploiter les éponges, mais bien à reproduire le procédé, c'est là qu'on est dans le biomimétisme. Et donc actuellement, on sait que si vous avez des fibres de verre à 4 degrés, pour l'instant, ce n'est pas rentable. Je vais expliquer que sur les critères de rentabilité, ça n'est pas, mais en tout cas, pour l'instant, ça n'est pas peut-être simplement une question d'échelle industrielle. Mais voilà donc un exemple de matériau. Un deuxième exemple de matériau, même qui va sans doute beaucoup plus important, mais que l'on va voir arriver probablement dans les moins des 10 prochaines années, c'est ce qui concerne les panneaux photovoltaïques. Actuellement, les panneaux photovoltaïques que vous avez sont un panneau de silicium, c'est une chip de silicium, qui s'applique, qui fait le progrès, mais qui est aussi très dépendante, d'abord pour cette forme dépendante des chips, et aussi un certain nombre de matériaux plus ou moins rares, toxiques. On donnait les deux, il n'y a pas longtemps, à une manifestation en Chine, dans un village complètement intoxiqué par un projet de production des panneaux solaires. Alors que nous avons littéralement sous les yeux, ici, on a plein de modèles de panneaux solaires, beaucoup qui ont été testés beaucoup plus longtemps par l'évolution. C'est un projet qui nous fait ces 250 millions d'années de recherche et de développement, et qui font en première étape la même chose, consommer de la lumière, prendre des. Et il y a maintenant des laboratoires par le monde et des pays personnel pratiquement complètement vain, la sensibilisation, sans accueillir aussi, à ma température, etc. Et qui pourrait vraiment nous faire céder à une animation d'énergie beaucoup plus compatible avec le vivant, ce qui est un petit peu le but du biomédicin. Alors j'en arrive au moment où on est personnel et je vais l'introduire avec une phrase qui résume très bien l'évolution de la biologie de cette année par rapport à cette question. C'est-à-dire avec vous, pour un organisme vivant, se maintenir en vie s'appuie autant sur sa capacité de reliance avec ses voisins que sur celle de croître et de se reproduire. Ce qui m'intéresse évidemment ici, c'est la capacité de reliance avec ses voisins. On nous a appris la loi de la jungle, en gros la relation à la compétition, la biologie de ces 30-40 dernières années, que ça en fait beaucoup plus. Enfin, c'est bien étonnant que bien sûr la relation à la compétition existe dans le vivant. Que la relation de soi, la relation de soi, c'est à partir des solutions de façon sans doute la plus radicale, c'est bien la coopération et en particulier la symbiose. Alors je voudrais vous donner quelques exemples qui montrent dans un premier temps à quel point ces coopérations ne fonctionnent pas, mais généralement des innovations majeures du vivant. Ici, ce que vous voyez, ça va vous rappeler à beaucoup peut-être de biologie, ce sont des mitochondries qui sont les fils sous cellules de nos cellules qui nous permettent de respirer. Et donc, on s'est rendu compte il y a à peu près une trentaine d'années qu'en fait, c'est une des symbioses bactériennes. Ces mitochondries qui sont produites par les cellules, ce sont des bactéries qui sont les plus autochtones des premiers eucaryotes, donc des organismes qui se retrouvent de la même façon que nous, avec la même génétique. Et donc, en fait, c'est une symbiose qui a permis la cellularité. Ces mitochondries étaient des bactéries prédatrices. Et les bactéries qui se faisaient manger, attaquées par les mitochondries, donc les coups, on va faire un tri, on vous laisse rentrer à l'intérieur, vous remplissez les fonctions de nous, vous apporte votre énergie dont vous avez besoin, et avec ça, ça va marcher. Ça a tellement bien marché que ça a permis de se manger plus de légalité. Donc il n'y a pas moins d'entreprises qui sont des mitochondries, c'est bien entré dans le corps, les mitochondries ne font pas non plus partie des équipes au sein des cellules auxquelles elles sont parties. Ça, c'est la symbiose que nous pour rappeler que nous avons bactériennes, nous avons tous, dans notre tube digestive, entre 10 et 30 produits de cellules bactériennes que le corps propre cellulaire. Et c'est ce qui nous permettra tout à l'heure de digérer aussi bien, c'est de débarrasser les bactéries, digérer moins bien que quand on en a des, c'est le propre des symbiose, le propre bénéficiaire aux deux membres de la nation. Un autre exemple fondamental pour nous, puisque nous en dépendons maintenant, c'est les plantes. Sauf que les plantes, comme vous savez, les énergies du soleil, en fait, par les plantes, ce sont encore une fois des bactéries, des algues bleues, qui sont elles aussi de plus synthétiques à l'intérieur des cellules, et qui sont beaucoup sur la planète chloroplastes, encore en ce qui est biologique, les chloroplastes sont les plantes qui font la photosynthèse et qui permettent à l'énergie solaire finalement de monter dans les systèmes des plantes. Transformant feuilles et puis après en poulet et puis après en tissu humain pour faire des cours. Et donc, encore une fois, cette symbiose, cette fois-ci c'était dans l'autre sens, les cellules qui se faisaient manger et les algues bleues, c'est la photosynthèse, on ne pouvait plus retirer pas, je continue à produire des sucres que plus dur, et ça remplit ces algues bleues qui étaient dans les océans, donc on est maintenant dans des plantes qui sont comme des aquariums qui ont permis d'être maintenant à la surface de la terre un peu partout, dans toutes les côtés de la terre. Aquarium, d'algues bleues, qui ont bien redécédé les plantes pour arriver à ce résultat. Alors, encore un autre exemple d'une réflexion que je veux vous soumettre par rapport à comment le vivant s'organise justement dans sa coopération. Vous voyez cet arbre. Vous savez, un arbre, c'est pas tout à fait comme un arbre, si vous coupez un morceau, si vous y prenez un moment, vous pouvez le replanter et faire un nouvel arbre. Et le premier, un petit peu aussi, ça ne marche pas très bien. On ne peut pas vraiment faire ça, nous sommes parmi les organismes vivants centralisés. On a un cerveau, et si on replante un arbre sans cerveau, ça ne va pas marcher. Et d'ailleurs, l'inverse, elle est aussi pour un certain nombre d'autres organes. Il y a vraiment qu'on s'en passe, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire. Ce qui pour attirer notre attention sur le fait que le grand organisme vivant centralisé sur cette planète, c'est le seul habitué, c'est la barrière bleue. Au-delà, les organismes vivants s'organisent de façon coloniale, ils s'organisent de façon. Et puis, c'est tout de suite. Et je trouve que c'est une question intéressante par rapport à nos organisations. Chaque organisme va se faire une certaine taille. Au-delà de cette taille, la centralisation, c'est pour compléter, on décentralise. on discute, tout le monde est centralisé, et déjà quand même, ne soit pas entièrement centralisé, vous respectez sans réfléchir, vous gérez sans réfléchir, et vous situatez sans réfléchir. Encore un autre exemple qui va nous amener à la dimension des écosystèmes et donc à notre dépendance à la biosphère, à très dépendance avec tous les autres organismes à la biosphère, c'est tous les échanges qu'il y a entre les arbres et les champignons. Il y a l'histoire qui est bien connue, les champignons sont sur la tête des théories, qui font des espèces de manches de filaments autour des racines des arbres. Et ça leur permet, eux, qui ne savent pas fixer justement la lumière du soleil, pour recevoir le soufre des plantes et des arbres. Et en échange, eux, fournir de l'eau pour récolter de manière beaucoup plus efficace et un certain nombre de sels minéraux, étant donné que le filament en eau sont beaucoup plus fins que le filament des racines. Ça, c'est l'histoire commune. L'histoire a connu des développements sur les habitants, par contre, c'est quand même un réseau de champignons qui pouvait relier un cheval à un vieillard. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, les champignons ont inventé des allocations familiales, puisque les deux arbres qui ont leur sommet le plus exposé, en fait, transfèrent une partie de leur structure vers les jeunes arbres via les réseaux de champignons. Donc, la fameuse concurrence des jeunes arbres qui se battent désespérément pour arriver au sommet de la côté, ce n'est pas tout à fait l'histoire, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et mieux encore, nous avons rencontré ça, un des champignons. Mais j'ai pris des espèces d'arbres différentes d'entre elles. Ça, c'est beaucoup plus troublant en biologie, parce que ça veut dire qu'encore une fois, des espèces qui se sont en concurrence sont en fait non seulement en interdépendance, mais sont presque solidaires les unes des autres. Donc, le champignon, c'est le gîte, puis il y a le coronal qui fonctionne bien, mais du coup, ça veut dire que toute la forêt fonctionne comme un vaste caillou avec des autorégulations. Notez bien qu'encore une fois, c'est pas centralisé, il n'y a pas un peu sans pâte qui est déjà fait, tout ça, c'est de l'émergence. Et qui fait que, avant que l'homme passe par là, on avait un réseau très souvent de la Bosque à Saint-Jacques-de-Compostelle, tout ça c'était des arbres et des champignons, plus sur les arbres, tout seul, toutes les interactions avec les poseurs, les animaux, etc. Et ça, ça nous montre comment fonctionner en réseau résident, mais en réseau pour se nourrir. J'ai presque terminé en prenant un exemple. Alors là, cet exemple aussi, je l'ai peut-être pas moins connu. Si vous avez une symbiose, pour le fait qu'elle soit électro-symbiose et assez secondaire, c'est une symbiose entre un escargot antarctique et une animal de mer. Comme vous le constatez, on ne voit pas la coquille d'escargot. En fait, faire des coquilles en Antarctique, ça coûte plus d'énergie pour des ressources qui ne sont pas rentrées dans le métal que dans les autres choses. Donc, cet escargot a fait un choix, c'est simple, c'est plutôt de défendre avec une coquille. Je me défends avec une animal de mer. Et du coup, ma coquille est une fragilité ridicule pour un escargot, mais elle est tranquille avec un animal. Et l'animal qui n'est pas très mobile, mais un escargot, c'est pas très mobile non plus, mais ça va très bien avec l'animal. Et l'escargot qui existe à la nature, qui va contenir un animal de son qu'on est toujours dans un échange de bons procédés. Mais ce qui est intéressant peut-être, c'est la phrase qu'on a dû tirer dans la salle, c'est que ces deux-là, en particulier les cerveaux, ont pris un risque de pouvoir travailler ensemble, que ce soit modifié au contact l'un de l'autre. Ça demande donc l'établissement d'une certaine relation de confiance, parce que maintenant, si l'animal déménage, il y a un corps d'état. Donc, il a fallu des liens de confiance, je vous laisse les extensions et les transpositions vers un nouveau dynamique. Voilà, je termine avec celle-ci, simplement pour revenir encore une fois à cette interdépendance que j'ai illustrée avec ma chère Roger tout à l'heure. Je voudrais vous proposer cette phrase à votre réflexion, si vous voulez arriver. Je vais lire aussi tous les soirs dans les villes, les discours de gens s'endorment dans la paix, ces choses merveilleuses de penser à tous ces sommeils, cette confiance. On oublie les êtres nécessaires à cette respiration. Ce ne sont pas tant les plantes qui poussent en ville que les villes qui grandissent dans les profondeurs des villes. Je vous remercie.
Thank you.
en rejoignant une lune. Si vous êtes seul, là, vous pouvez faire la quatrième, une bonne partie de 4, Et donc, voilà, vous devez le prendre si vous avez des places chez vous pour se fatiguer. Le papillon.
Vous voyez,
Allez chercher ce qui est invincible. C'est ce qui est là, ce qui vous touche. C'est vraiment un espace pour être attentif à ce qui n'est pas déjà connu. Et c'est vraiment ça qui nous redonne la vie. Je pense qu'on peut faire la vie. Alors, enfin, vous êtes sur des tables, un peu comme vous êtes au café, donc n'hésitez pas à essayer, surtout lorsque vous écoutez peut-être un mot ou une image. Et n'hésitez pas, vous avez fait. On va rentrer dans le thème. Et peut-être, par une manière de réflexion, la question que je vous propose, c'est de vous reconnecter à un moment dans votre vie où vous vous êtes senti particulièrement en contact avec la vie. Ou peut-être un moment régulier où vous vous sentez particulièrement en contact avec la vie. Ça peut être aujourd'hui. Ça fait la paix. Ça fait la paix. Je suis sûr qu'il y a plein qui ont l'esprit. Essayez de faire dans le silence, se dérouler. Et vous en prenez un. Vous avez pris le temps de vraiment le retrouver par vos sens. Qu'est-ce que vous voyez? Et lorsque vous êtes prêt, à votre avis, ce que je vous propose, c'est de prendre la pierre de votre chat, une personne, et de partager avec vos voisins, de laisser vous rien. Ça vous donne accès à quoi ça vous donne le sentiment de vous et tout est bon. Et prenez deux, trois minutes, vous pouvez le faire sans commentaire. Et si l'autre personne partage son avis, quand vous aurez vu le tour des cartes, vous voyez ce que ce tour va donner en tout une quinzaine de minutes. Et à la fin, vous entendrez une petite clochette. Et le travail, vraiment, je vous demande de la coopération avec le monde, le travail difficile va être de suspendre votre conversation et de revenir en haut assez rapidement pour que vous puissiez avoir d'autres discussions sur la suite du déroulé. Votre conversation. Thank you.
Thank you. Ça fait un pas simplement de faire la culture.
Au sommet du monde. Et que les yeux sont ouverts par la vie de la vie, et les yeux sont en lumière. Impermanence, brillance. Méditation. Ça sera le déployer. Et aussi, les quatre trouver les mots. Prenez conscience. À côté, il y a un peu de douée qui observe le petit en relevé.
Dans la nature sauvage, le propos.
Le silence qui nous est.
On va avoir une conscience sur les années. Ça suffit à l'heure. Ça pourrait être retrouvé dans le monde des différents. Ça nous donne un paysage avec ces deux millions et. Et aussi c'est différent. Je voudrais juste savoir, essayer des éléments qui sont dans votre vie, dans votre vie. Combien de personnes ont fait des éléments de votre vie quotidienne dans le monde? J'aimerais que vous m'entendez, c'est une question qui m'importe. Où est-ce que vous êtes bien? Où est-ce
que vous êtes bien? C'est ça, le dégât, c'est ce qu'on apporte sur les questions de ça. C'est un peu extrême. Et très peu de personnes avaient d'autres pensées à trouver de l'autre. Et que leur manière est vide. Il n'y a personne qui s'est donné. Même moi, je ne l'ai pas.
Deux éléments. Avec toute cette image, il y a aussi le jeu de vue, ce qui est venu dans vos conversations en termes de à quoi ces expériences réelles vous ont donné accès et ont donné accès à vos collègues. Ce que je vous propose maintenant, c'est que une personne teste à la voilà, mais l'autre, la mémoire. Et que les autres soient les ambassadeurs de la conversation, et très rapidement, on signale que ce ne sera pas une différence. Par recomposer le contenu. Une fois que vous êtes installé à l'état de la nouvelle partie de la conversation, la question que je vous propose de poser dans ce prolongement, c'est qu'est-ce que ces expériences nous apprennent? Il y aura d'autres expériences. Donc, on va chercher ce qu'on a à donc, une personne reste à la table, et les autres, c'est parti, nous commençons par la résumer de commencer à la table. Thank you. mais pour ça, pour l'instant, l'instant pour vous, vous venez parler de vous, et dans le monde, vous écoutez dans la journée, qu'est-ce qu'il y a de l'avant? Juste pour vous, merci de le dire. On a un instant pour vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a de l'église qui est vraiment intéressant et important? Est-ce que je garde dans ce monde? Ok, fort de ceci, nous allons continuer de prendre des canaux de ce voyage. Je repense à ce que Philippe Chapelle nous disait dans cette phrase qui nous a montré les cerveaux, oser se transformer par la présence de l'autre. C'est un peu une invitation avec les belles là, en fait, c'est et voir ce que ça donne. Alors, pour ce dernier jour, la règle, l'attention, c'est que la facile à faire. Ce qui est là, c'est légèrement, et peut-être des fois, l'accent sur un esprit à l'âme. Qu'est-ce qui vient challenger notre entreprise? Qu'est-ce qui vient être. Qu'est-ce qui est utile pour notre boulot, notre vie de tous les jours? Parce que trop souvent, on voit bien cet esprit. Alors, il y a la nature de l'univers, c'est ça. On a vu, on a touché. Mais là-bas, c'est une autre vie. Alors, ça, c'est une manière de voir les choses. Si on peut permettre de relier entre vous et vous, on sait. Est-ce qu'on peut tirer des expériences que vous pensez être inspirant, challengeant? Mis en avant sur vous. Alors, dans un instant, une personne reste là avec la même que l'autre. C'est l'autre. L'autre va présenter quelques moments forts. Ce que je vous invite beaucoup à faire, c'est de nouveau vous montrer votre parole. Pour que vous puissiez avoir un premier coupure, des coupures. Sans s'associer, vous voyez, de la majorité des décisions. Et après, vous avez demandé à Michel, après, voilà, ça sera encore 15 minutes. Et à l'issue des 15 minutes, on fera une révolte. On en fera, plus chaud dans nos conversations. Alors, préparez-vous ici. Vous savez, les écoles qui vont peut-être remis au bout de notre. Vous notez
Thank you. Thank you. Et sur le fond, ils sont sur le comme je
de l'Europe, c'est la connexion civile, la coopération qui renforce la solidarité publique. C'était un enquête de l'Europe sur la société de l'Europe, et de son enquête de l'Europe, et de son enquête de l'Europe.
Thank you. avez parlé de deux autres qui ont très orientés sur moi. C'est tout le temps, donc par aussi avant dans l'esprit, et la tolérance. Parce que la nature tolère ce qu'on fait. Il n'y a pas de réaction ici de la nature, et pas de l'action. Pour ces soins qu'elle soit, la nature ne va pas vous punir de ce que vous avez fait. Et c'est quelque chose qui dit que peut-être que chaque part de la vie s'est en même temps sécurisée de sa part centrale. Et ça va être très lié parce que vous tolérez, si c'est la vie, si on est indépendant, et en même temps, il y a ce souci d'aller avec les autres, c'est-à-dire que la coopération est nécessaire. Et pas indispensable. On est capable de s'adapter, de se séparer des autres, en savoir ce que les gens en même temps de rester ensemble. Donc, c'est une question de vous. C'est difficile de
trouver. Je cherche à concentrer sur ce qui est vraiment bien touché. On dit sur la dimension de confiance. Il y a beaucoup de questions de prendre la composante de confiance avec la confiance dans le monde. Ce qu'on a remarqué dans les différents échanges qu'on a vu, c'est que le lien avec la nature se passe souvent à un niveau intime. Quand on est seul, on ressent dans son cœur, on est déréveillé par le jour. Je ne parle pas de tout la vie naturelle. Et que dans l'entropie, il n'y a que très peu de bien. C'est le bien sûr que je trouve que c'est déjà été dit. Pourquoi ne pas avoir ce moment en ce qui est important, cultiver dans un moment d'entropie ce lien avec la nature, pour pouvoir émettre un partage, oser partager comme on peut le faire avec le prochain enfant, qui est de se toucher, de s'aider, de se trouver. Elles sont toujours un peu beaucoup. Avec ses collègues, parce qu'il y a un système d'influence et une pétition potentiellement, on ne va pas commencer à faire des compromis. Donc pourquoi ne pas oser cet émerveillement en entendant ce qui peut créer le lien de collaboration. Solution concrète en entreprise, c'est de créer des espaces de connexion naturelle corrigés. Et silencieux, des endroits où il y a de la nature, où il y a du silence, où on est seul, il y a rien, on est obligé de dire pendant au moins une heure. Il y a chaque section derrière.
Dans sa confiance dans la vie. Et donc, il y a aussi des personnes qui ont été interprétées dans ce besoin de communication humaine, bref. Et on s'est confié à quelqu'un, c'est juste le contraire de ce qu'on aime faire. Donc, oui, on contribue à faire le contraire, en utilisant par elle, en n'étant pas proche de soi-même, en étant dans le même allant.
À ce stade, je vais vous encourager à compléter, à ne pas recommencer à faire une innovation et les autres choses que vous avez dit, d'accord. Donc, moi, je suis chaud.
Pour compléter, puisque la coopération est apparue souvent, en fait, c'est les liens entre la nature qui sont liés à l'émotion. Les entreprises, il y a pas mal d'émotions qui essaient de rationaliser et de cacher les émotions. Donc, quelqu'un se complète, essaie de l'arrêter, retrouver l'émotion dans l'entreprise. Et la deuxième idée, c'est que dans la nature, prend conscience, par la nature, prend conscience sur les moyens, tous les niveaux des végétaux, des autres animaux, des humains, et surtout, avec le temps, avec les bactéries, avec les 3 milliards d'années, avec. La ligne de la vie, la ligne de la vie, et d'être en lien, ça se fait, et ça fait, ça abaisse, ça ressource. Et en fait, ça répond profondément à des peurs de l'ancestral, de la mort, du peur d'être abandonné. Et donc, voilà, c'est remettre un peu de l'humilité et de lâcher. Et en fait, l'entreprise en elle-même, et dans l'organisme qui n'a pas envie de mourir, l'entreprise, c'est un système qui ne peut pas mourir. Et donc, elle a la passion de ne pas mourir, elle a la passion sur tous ses employés. Et je pense que si la entreprise a conscience qu'il faut croire qu'il y aura un droit des droits pour mourir, ben ça va faire retomber votre organisme. Et ça va être
une question. Je voudrais un petit peu bien de la salle. Yes.
que si on ne dépasse pas, on reste assis et on espère que ça ne passe plus. Il y a 10 000 ans, nous vivions dans le temps de chasseurs-cueilleurs, qui a fait un individu à 150 à 200 maximum. Là-dedans, les relations de coopération étaient automatiques parce que tout le monde connaissait, tout le monde savait ce que les autres avaient fait, qui avait une vie, qui devait maintenant prendre son pour faire tâche à respect, peut-être moins à l'heure. Une fois qu'on a son système de masque, on peut devenir caché et retirer de l'organisation beaucoup plus que ce qu'on voulait. Et ça, c'est une nouvelle réponse pour l'idée que autre ou encore doit assembler au monde et pour obtenir un certain nombre de réponses. Donc, simplement en revenant peut-être de l'autre côté de la coopération, c'est de morceler des entités qui sont très grandes en entités plus petites dans lesquelles nous sommes comme nous.
Cette hiérarchie, cette chaîne de commandement qui permet de bien fonctionner
Seul est le vouloir. Mais nous voulons que chacun pose des questions de nous-mêmes ça tira à si on pense c'est ça de votre sujet de la question. Je vous propose de vous donner une tarte, de vous donner quelques repères pour la suite. D'abord, vous avez une relation. Je crois que c'est le moment de vous donner. Ensuite, à 50 minutes, il y a un peu de temps très exact sur la ligne. Devant les cas, Maximilien Marais va nous parler de son expérience. Ensuite, on aura donné la Gauthier Maximilien, et en temps de l'échange, à partir des questions qui vont évoluer, il y a beaucoup de questions qui sont là, qui sont là, qui sont là. Voilà, on ouvre ce champ, et le champ est ouvert pour ces conversations à part elle. Vous êtes la bonne appétit, et à tout à l'heure, bonne appétit.
Thank you. Thank you. Thank you.
c'est un nouvel modèle, c'est ce qui permet à l'entreprise de développer des enjeux considérés. Or, avant de considérer les enjeux de la planète, déjà que vous avez fait un premier remarque, les entreprises ont naturellement tendance à chercher à optimiser les modèles. Et on arrive à la limite de ce que j'ai fait dans le premier remarque. Au lieu de changer de stratégie, réinventer la stratégie, on l'améliore. Voilà. Si j'y vais, on peut arriver de la même manière. Oui.
Parce qu'il en est pas
quoi tes compétences? Et quels sont les outils les plus forts par rapport à tes compétences? Et dans les enfants du moyen, les compétences, c'est quoi? Mettre en œuvre un système de conduite qui permet d'avoir un œil d'atteindre une certaine utilité. Voilà. Et donc, il faut vraiment réinventer le concept des échecs pour proposer ce type de problème à des gens qui ne sont pas dans le cercle et ça donne un peu de marché sur la même. Quand on est dans un semestre, on va se mettre dans le chemin. Donc, vous voyez, quelque part, réinventer son business model, c'est travailler sur toutes les dimensions. Et c'est une vraie innovation. C'est pas qu'un matin, mais un peu plus tard, il y a une vraie énergie. Et encore une fois, avec tout le monde, on est dans un sujet, on ne se rend pas compte que c'est un business model. Voilà, ça c'est une première chose que je vous soumets. Je ne sais pas comment vous la présenter, si elle vous parle, si vous ne vous pas dans le sujet. Je vous en soumets une autre. La deuxième leçon, qui a déjà été extrêmement parlé, mais je vais peut-être la détailler un peu plus, c'est que voilà, la deuxième leçon, c'est de devoir écouter l'art du management et de l'innovation collaborative. C'est un art. Alors par rapport à ça, vu qu'il y a des notes, les adeptes d'un jeu vidéo ont réussi en trois semaines à écouter une envie, un coup les chercheurs, les étudiants n'arrivaient pas à décoder. Ça fait 10 ans qu'ils arrivaient, ils n'y arrivaient pas, et finalement ils se sont pris au jeu de soumettre à des joueurs dans une vidéo, et c'est eux qui ont décodé. Voilà, vous voyez quelque part, ça veut dire quoi l'illustration de collaborative? Ça veut dire 1 plus 1 plus 1 plus 15 000, voire 20 000, 20 000, 100 000. La force est identifiée quand on a dit. Mais attention, on va voir, mais c'est un peu collaborative, c'est une forme, sans aucune autre précaution, vous allez avoir un bon problème de collaboration. Alors, par rapport à ça, déjà, il y a la notion de périmètre de collaborativité. Est-ce qu'on peut élargir le périmètre de collaborativité? Souvent, on dit qu'on va avoir une collaborativité avec les clients, c'est intéressant. Est-ce que les clients, je vous donne un exemple, une entreprise qui fait des clients, des clients qui achètent des produits sur Internet, est-ce qu'il y a un problème? Les gens qui achètent des pièces, c'est des gens qui savent pas. Donc, je n'adresse pas les gens qui ne savent pas. Faire un modèle de collaborativité pour les clients qui sont posés, ça ne devrait pas poser pour d'autres. Enfin, la solution. Donc, il y a une intermédiation entre ceux qui sont posés et ceux qui ne sont pas posés. Et du coup, on apporte un nouvel état de l'univers à l'entreprise, ceux qui ne savaient pas poser. Voilà, c'est un exemple de périmètre de collaboration client, on a porté avec le pack de clients. Il y a des acteurs de chaîne de valeur. À la limite, si vous gardez qu'un place, il y a une solution à faire un acteur qui est là. La première école de commerce française de Persantan a un million d'élèves, alors la meilleure école de commerce au monde, Persantan a un million de professeurs. Donc est-ce qu'il n'est pas intéressant de construire les professeurs comme les premiers clients de l'école? Donc est-ce qu'on ne peut pas aussi faire du collaboratif au niveau des autres acteurs de la chaîne de valeur? Et pour finir, il y a les acteurs d'entreprise, bien évidemment. Mais souvent, en tant que collaborateur comme les groupes dans les entreprises, c'est plutôt collaborateur interne et pas externe. Et le dernier point, c'est les champs qu'on est venu chercher. C'est très intéressant, je crois, je vous ai dit, une entreprise qui fait du fromage, c'est très intéressant pour elle, mais dans la chirurgie, on a fait un peu. Alors, vous me direz, oui, il y a des contraintes, il y a des contraintes dans l'entreprise du fromage, il y a des contraintes, mais il peut être pas vraiment à faire des autres. On va voir la contrainte, des réponses. Là, vous pouvez aller voir d'un côté les champignons en fermentation, ça peut être les vaccins, ce que vous voulez, la levure, et d'autre côté, vous allez voir ici les champignons de l'électrophagie. Si vous apprenez d'un côté sur la fermentation de l'électrophagie, peut-être que ça vous permet de faire une rupture dans le process industriel pour fermenter plus vite avec moins d'électrophagie. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu pour vous qui est d'élargir le périmètre de collaborativité? Une dernière question là-dessus, sur la notion de champion externe. Il y a une entreprise qui s'appelle Goldberg, qui est du forage, une forme de mine, l'exploitation de mine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un concours où ils ont invité toutes les énergies de notre monde entier à proposer des nouvelles méthodes pour essayer de retrouver l'or en milieu de l'économie. Et grâce à ça, ils ont rencontré un important potentiel à récupérer. faire un bon commenté pour les lignes. Pour éviter les péchés, si vraiment il y a de changer les blocs, pour décaisser les péchés, si vraiment il y a des blocs. C'est quand on fait un chèque, on fait le jour aussi. On va prendre l'énergie écologique pour exploiter les lignes qui en restent, et on va prendre l'énergie écologique pour essayer de trouver une mine ailleurs dans ce modèle de l'Europe. Voilà, donc est-ce que ça vous concerne pas? Le deuxième aspect dans la collaborativité, c'est la collaborativité à l'intérieur de la nature. Si l'on est isolé, par exemple, on ne peut pas les enjeux de la nature, et elle est utile, elle ne peut pas le faire, ce qui vient ne suit pas. Peut-être le meilleur exemple de cette dimension de collaborativité à l'intérieur de la filière, c'est Stonefield, un des routes américains, démarré en 1985, un réseau de route aux États-Unis. Aujourd'hui, Stonefield,
Et donc, on va aussi aller dans le domaine du cas. Et en parlant, il nous
les lunettes de Sherry. Prenons l'exemple de Paris, et moi je disais pour ça, 80% des parkings privés dans Paris sont utilisés le jour du journée. Est-ce qu'on ne peut pas permettre de partager dans la journée ces parkings, permettre à des gens qui ont des objectifs de pouvoir non seulement se garer dans la rue, par exemple, de recharger la voiture, et le propriétaire du gros enjeu du partage, il va un peu valoriser. C'est un élément de soutien du chéri et des possibilités au niveau du chéri qui sont exponentielles. Lui avoir un élément, je crois que l'entreprise du transport de l'autonomie du constructeur du concessionnaire. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas permettre au concessionnaire de partager les autres? Un concessionnaire qui est une tagueur en entreprise. Et quand on regarde la même couleur, on sert à des il y en a 20% qui sert à quoi? Marginalement. Donc le 80, on ne voit pas.
Ou est-ce qu'au contraire, l'entreprise ne doit pas se sentir humain,
doivent s'emmener les problèmes dans un jugement qui ne sert à rien. Est-ce que nos doigts n'ont pas un enseignement? Est-ce que nous n'avons pas un enseignement? Alors, tout ça c'est gentil, mais vous allez me dire, ouais, management, cohérence, stratégie, figurante, et la cohérence, tout ça. Pourquoi je parle de stratégie de figurante? Parce que les gens, on va être beaucoup moins de figurants. On va avoir des esprits ricochés, liés à la façon des ressources, à changer de physique, mais on va avoir des esprits dans le monde. Les entreprises à l'air de l'un, c'est en plus. Je ne pense pas qu'on soit capable. Aujourd'hui, on est capable de changer de stratégie. C'est ce qui est le cas. Alors, les deux problèmes sont des moutons. On a trouvé un. Donc, où est la cohérence dans tout ça? Eh bien, voilà, on va essayer d'aligner la cohérence. Si vous faites cohérence en 100 millions, alors là, vous avez une incohérence. C'est l'alignement qui a fait une cohérence. Vous avez trop de divisions. Et j'ai trouvé un peu ce schéma de. Ça, c'est les mots. Les mots, il y a les compères, il y a 4 poissons qui sont fermés dans un filet. Et puis, à un moment donné, les mots, il y a rentré dans un filet. Et il y a beaucoup de tous les poissons qui peuvent faire des choses en partageant la même vision de manière cohérente. Alors, c'est une question de filet, mais c'est une image qui me semble intéressante dans la notion de cohérence. Les entreprises qui viennent aujourd'hui, c'est les entreprises qui savent réinventer une vision de cohérence à ce sujet. Et ça, c'est pas facile. De cohérence, avec de. Alors, en dernier lieu, voilà, on arrive. Posez-vous la question suivante. Est-ce que vous sentez inspiré et fier de faire votre travail à cause de ce que votre entreprise porte face aux nouveaux enjeux de vous? Si la réponse est oui, alors le candidat est rapidement entré, il y a une vision, et mais si à l'inverse, les autres entreprises ne savent pas trop répondre ou ne répondent pas de manière différente, alors là, on peut se poser la question. Et j'ai toujours une fois dans la journée, même en période de nouvelle, la puissance morale est 3% de la puissance matérielle. Et donc, ce qui compte dans une entreprise, c'est la puissance morale. Quels sont les risques qui nous existent à l'idée de l'entreprise? Et je pense que la planète, la nature, les enfants de la planète et de la nature sont des occasions pour ceux qui ont su déjà les risques.
De nouveau des échanges avec vos domaines de. Juste, c'est très rapide, c'est 4 minutes.
Thank you. Nous avons une autre, déjà un autre rapport les amis, c'est la personnalité dans le sol. Et d'autres, certains êtres sont importants d'inaliser, d'un esprit, alors que c'est la apparence, c'est la personnalité, la société qui est distincte. Et puis il y a encore beaucoup de
tout ça pour vous dire
que, en gros, c'est que Descartes, parce que c'est Descartes qui a méchant l'histoire, c'est lui qui a fait cette séparation entre l'esprit et les temps, lui qui a considéré que les animaux étaient des machines qui répondaient essentiellement des stimuli. Mais cette manière de penser qui nous a permis un développement scientifique et technologique, qui nous empêche évidemment. C'est la nature, quand on se voit, on va permis d'interroger cette manière de concevoir notre rapport au monde physique. Donc, il y a une autre question, peut-être que j'ai envie de vite, peut-être pas répondre, mais que j'ai envie de c'était justement les questions des malheurs. Voilà, ce que je voulais donner, c'est quoi les nouvelles valeurs, quelles nouvelles valeurs, c'était des questions sur le travail, sur la croissance, sur la répartition, etc. Ça, c'est peut-être. Alors, aujourd'hui, c'est ce que le global network appelle le rejeté. C'est donc, à partir de demain, en dette par rapport à la nature, nous avons consommé jusqu'à maintenant tout notre capital naturel qui, normalement, est de fait. Et avant fin décembre, là, on est en train de poser notre dette en termes de capital naturel. Notre empreinte écologique, donc, elle dépasse les limites de la planète. C'est tout ce que nous allons devoir lutter dans nos manières d'être, dans nos pratiques, dans notre quotidien, dans nos modes de production, de consommation. Mais comme nous ne sommes pas uniquement des êtres physiques, nous devons aussi des choses dans la pratique de signification, ça veut dire que c'est ce à quoi nous donnons des valeurs de signification doit changer aussi. On peut dire que il faut que nos significations soient évoluées, nos valeurs soient évoluées avec ce de quoi on va transiter. Donc, ça signifie que la tradition nous peut nous fournir de nouveaux types de valeurs. Un exemple que j'aime bien, c'est le principe que je fais entre confort et bien-être. La société de consommation a énormément de confort, mais le bien-être est moins souvent entendu, sur le voir à la consommation de tranquillisants ou de médicaments. Donc, qu'est-ce que ça veut dire croquer éventuellement un peu de confort contre plus de bien-être moi, personnellement, ça veut dire faire du mieux plutôt de prendre ma voiture, par exemple. Parce que je sais que ça demande un certain effort, mais je sens beaucoup mieux, je me sens mieux quand je suis à la vie, j'ai la chance de pouvoir traverser les voies d'action pour aller à mon boulot. Évidemment, c'est moins confortable. Et donc, c'est peut-être c'est en mangeant aussi justement cette façon de valeur, de l'interroger dans sa vie, dans ce vraiment des expériences que l'on a, où on peut retrouver d'autres valeurs, comme simplement celles qui, jusqu'à présent, nous ont mené dans cette société de consommation et de croissance pour la certification de comment ça nous échappe.
J'hésite déjà un moment sur les questions. Il y en a peut-être que celle qui m'ont plus, c'est sur les nouvelles valeurs. Et moi, j'ai envie de dire que peut-être la valeur forte, personnellement, pas personnellement, la valeur, c'est de pouvoir refaire confiance et retrouver
Le sentiment de sacrement de collectif humain, toute la planète, si je vois moi, encore dans notre humanité, je vois qu'il y a encore des peurs qui montrent qu'on n'est pas encore complètement conscient à cette appartenance collective. Et puis ensuite, le collectif, je pensais tout à l'heure avec le collectif du suivant, toute la planète, avec en plus le besoin de sentir que c'est pour ça qu'il y a un les uns par rapport aux autres, et donc ce collectif, ça n'est pas juste une belle image parfaite, c'est comme ça. Par contre, est-ce qu'on arrive à le rendre conscient, est-ce qu'on arrive à l'adapter, et du coup, ce sont des valeurs que lorsqu'on a rentré dans nos entreprises et dans nos collectifs, je dirais ben, au moins que les objectifs soient au minimum de regarder ce système, ce grand système dont nous sommes plus ou moins inconscients. Vivant, et c'est aussi un lieu de vivant. C'est aussi un lieu d'évaluation. Je pensais à une phrase que j'ai montrée tout à l'heure, une énorme phrase que j'ai montrée tout à l'heure. C'est quoi les noms du vivant? Les noms du vivant, c'est rester vivant, pas éternellement, mais rester vivant. Au moins, vous allez pouvoir respecter cette production. Et puis, faire tout ça, c'est possible quand même dans un relation qui est fort. C'est pas juste de vivre sur le lieu, c'est aussi pouvoir faire une réalité, faire une encore une fois sur l'importance du relationnel pour profiter du voyage quand on passe sur terre. Voilà, j'ai terminé presque avec juste une autre petite question qui est pour moi très bien, c'est la culture de notre challenge. Je ne pense pas qu'il y a la culture de notre challenge pour le plaisir, par contre, elle est très importante à l'évaluer et on se rend effectivement dans le temps, on voit que chaque contrainte devient une opportunité pour créer autre chose. Mais je ne suis pas sûr que ce soit écrit dans le livre.
Thank you.
vraiment mis dans le contrat, tous les ans, elles sont deux, et nous avons mis une transparence. Les gens ne pas, mais ils ne savoir si elles sont transparentes. Et l'entreprise peut pas être bien. Si vous allez voir vos profils sur Internet, elle va vous dire, restez bien, et restez quand même. Là, c'est une colonne de date. Et après, il y a une autre colonne, et voilà, c'est pourquoi ils peuvent engager demain pour produire un milieu. Et tous ces produits, ça a destination d'engagement. Et donc, je pense qu'il y a une formidable opportunité pour l'entrepreneurship dans les entreprises. Enfin, 4 années pour entreprendre, je crois que c'est ça, 4 années pour y aller. Ceux qui sont déjà allés, c'est des entrepreneurs en permanence.
Je pense que tout ce qui est dans le monde se comporte avez dit égo-système ou éco-système?
Alors,
voilà. Alors, de faire une conclusion, ça me paraît tout à fait impossible. Ce que j'ai essayé, c'est de vous libérer. Et avant de vous libérer, vous allez tourner vers Martin. Puisque Martin est très calme dans toute la soirée, et vous n'avez pas entendu, mais je peux vous promettre la réaction. Et vous savez comme c'est compliqué de lire un compte rendu quand on vous l'envoie deux heures après, vous vous dites, quand même, je viens de commencer à lire tout ce truc-là. Eh bien, Martine, elle arrive à faire des comptes rendus et à pouvoir récolter toute la richesse de nos discussions, de nos débats, à travers un dessin, à travers des mots, à travers un schéma qui va vous permettre de pouvoir relire, de revoir sur notre site internet et de pouvoir comme ça en profiter, pouvoir tirer un petit clin d'œil et à pouvoir regarder quelques mots, quelques textes, quelques dessins qui vont vous faire souvenir de cette soirée. Je voudrais tout simplement applaudir Martine et pour la remercier. Je voudrais maintenant juste prendre un temps pour vous remercier. Remercier parce que pour moi, il y a trois éléments, j'allais dire la loi des trois P. Mais c'est pour remercier pour les trois sentiments que j'ai ressentis pendant cette soirée. Le premier, c'est la politesse. Parce que vous êtes à l'écoute, que ce soit le voisin, que ce soit le la table aussi, d'être resté jusqu'au bout, jusqu'à 10h15, vous avez une longue journée. Donc pour ce sentiment de politesse, un grand merci. Deuxième, le sentiment que j'ai ressenti, c'est le sentiment de plaisir. J'étais inquiet, j'étais stressé, et pourtant j'ai trouvé devant moi une salle qui allait avoir plaisir à pouvoir partager, à pouvoir discuter ensemble, à pouvoir découvrir des opinions et des avis très différents dans un rythme et dans un système et dans un process qui n'est quand même pas tout à fait classique. Et puis le troisième, c'est qu'en fait je pense que si on est tous ici ensemble, c'est qu'on partage une passion. La passion d'essayer de trouver des nouvelles voies, la passion d'essayer de vivre plus en harmonie avec la nature, et pour ça, je vous remercie. Donc, pour ça, j'ai un cadeau par tout le monde, mais vous approchez, c'est une étant dans votre poche en disant vous êtes des machos, il n'y a pas de femmes, vous n'avez jamais les femmes qui viennent parler. Alors, comme cette fois-ci, vous étiez les intervenants, vous étiez les interlocuteurs, et bien le roi des rois a décidé de vous faire à 40 des femmes qui sont présentes. En avoir 40 cadeaux en tout cas pour chaque week-end. Et donc, les fleurs qui sont sur la table, eh bien, elles sont pour les 40 femmes qui sont parmi nous ce soir et qui peuvent ramener chez eux. Donc, merci d'avoir rencontré. Dernier point, je pense qu'il n'y a pas de conclusion. Et là, c'est vraiment grave de donner une conclusion à ce genre de soirée. Il y a plutôt de la collaboration. Et la collaboration, c'est ce qu'il y a 8 ans. Renaud de Beauvoir et Luc de Bambandère ont essayé de faire en créant Philo et Manhattan. C'est-à-dire de se dire qu'il y a deux mondes qui sont complètement séparés, le monde du Manhattan et du monde de la philosophie. Et ils ont essayé de regarder s'il y avait moyen de collaborer et d'avoir un échange entre ces deux mondes. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Que grâce à l'évolution, avec Laurent, eh bien, on est arrivé non plus à avoir simplement le monde de la vidéo et le monde de management, mais on a des biologistes, des entrepreneurs, des économistes, des ingénieurs, enfin, un monde multiculturel et multidiscipline qui commence à travailler, à vivre ensemble et à communiquer ensemble. Cela, eh bien, un grand merci d'être là ce soir. Je passe la parole à Laurent pour encore vous annoncer deux petits programmes pour le futur.
Tout d'abord, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps ce soir de discuter du programme en tant que tel, mais c'était que Philippe Miral nous a mis trop loin. Gauthier et moi-même à présenter le programme, ça tous les livres qui nous ont servi à élaborer ce programme. Donc, c'est le 5 octobre, 18h, pour que nous grâce pour ceux qui sont intéressés, c'est le livre qui s'est ouvert. Si vous voulez
en tant que bénévoles à pour parler des livres que nous avons eus pour élaborer le programme, ce sera l'occasion. Puis on vous invite bien évidemment le 12 du 6, donc c'est dans très salon, pour la séance de clôture du cycle, où nous vous présenterons en fait les résultats des travaux de toutes ces années de travail que nous allons passer avec ceux qui se sont déjà inscrits et ceux qui voudraient peut-être encore s'inscrire. Je dois vous annoncer que c'est faut y aller vite parce qu'on est presque complet. On limite vraiment le nombre de personnes afin d'avoir un débat de qualité chaque mois. Donc le 12 du 6, on aura cette dernière séance. Et c'est une séance importante parce qu'on aura le grand plaisir et l'honneur d'accueillir avec nous J.B.R. Talcott, qui Talcott aujourd'hui est considéré, je pense, dans le monde entier comme étant vraiment l'un des plus grands philosophes de l'éthique environnementale. Il nous fait le plaisir de venir discuter de tout ça avec nous. C'est un micro, toute la discussion sera en anglais. Je pense que ça se passera très bien également. Alors, deux points aussi. Pour ceux qui sont intéressés à la sortie, vous pouvez vous procurer un exemplaire du livre de Maximilien Bravé, Les Essais de l'Hiver, mais également du livre de Jeanne Lévy, qui a préfacé aux Échappées, qui est vraiment le livre de référence de biopolitisme, ainsi que l'un de notre livre. Et puis enfin, nous vous enverrons dès demain une petite enquête par rapport aux satisfactions, je dirais, par rapport à la séance qui s'est passée aujourd'hui. C'est important pour nous que vous publiez un peu ce que vous avez ressenti, parce que c'est vrai que, comme l'a évoqué tout à l'heure Roland, on prenait quelques risques aujourd'hui en vous invitant à ce type de soirée un peu différente, en tout cas de celle que nous avons connue jusqu'à présent avec le Global Management. Et nous espérons tout simplement que vous aurez passé un bon moment, ça vous aura donné l'envie d'aller plus loin dans cette reconnexion, dans cette manière de penser la nature différente. Voilà, bonne soirée à tous.
Thank you. Thank you.